pop, Yann Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Nombreuses sont les vertus de la bande dessinée qui tour à tour peut vous divertir, vous distraire, vous détendre, vous dilasser, ou bien revenir à la mission première du service public, vous informer en vous distrayant ou vous distraire en vous informant, ça marche dans les deux sens. Tiens, prenons au hasard deux individus. Le premier, Christophe Blain, est un des auteurs phares de la bande dessinée et de l'illustration, un homme plus couvert de médailles qu'une charolaise méritante au salon de l'agriculture. Et le second, Jean-Marc Jancovici, polytechnicien, spécialiste incontesté en matière d'écologie et de climat. Quand ces deux-là s'associent et associent leurs génies respectifs, didactiques pour l'un, graphiques et joyeusement lumineux pour le second, Montou donne un album dont le succès en librairie pourrait nous consoler, hélas seulement en partie, d'une COP26 encore une fois aussi efficace que si les éminents chefs d'État réunis pour la circonstance avaient décidé d'uriner dans un violon, en la circonstance une contrebasse. C'est un livre important dont nous allons parler aujourd'hui, qu'il est d'utilité publique de lire et de faire lire pour comprendre d'où l'on vient et surtout où l'on va si l'on ne se résout pas à changer de modèle de toute urgence. Ça s'appelle Le Monde sans fin et ça se dévore sans fin. Pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Et bonjour Christophe Blain.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue dans ce studio. Avec vous, nous allons donc parler de cette BD Le Monde sans fin que vous co-signez avec Jean-Marc Jancovici, qui est édité chez Dargaud. Au menu également de Pop Pop Pop, en votre compagnie, les jumelles d'IBI viendront nous dévoiler en exclusivité leur tout nouveau single, Ambiance. Ah ben non, c'est une exclue. C'est sous embargo, bien sûr. Et pour entendre le morceau, il faudra patienter jusqu'à la fin de l'émission. Et ça, c'est ce que j'appelle du teasing. Oui, c'est ça, les professionnels de la radio. Christophe Blain, je parlais de vous comme d'un homme plus couvert de récompenses qu'une charolaise méritante au salon de l'agriculture. Est-ce que c'est une métaphore qui vous convient ?
Oui, j'aime bien. Elle est assez inattendue, mais ça me plaît, la charolaise, tout ça. Non, je suis assez... Je prends.
On ne compte plus les prix qui ont plu sur vous.
Oui. Oh, c'était il y a un moment déjà.
Ça vous manque.
Ben oui, on dit accro. Non, ça va. Non. J'avoue que je suis très. Ça va. Je me sens bien.
Les points communs entre la culture et l'agriculture, ils sont d'ailleurs incidemment développés dans Le Monde sans fin et nous allons y revenir dans ce pop pop pop. Mais comme c'est l'usage, nous allons démarrer par un peu de musique et par ce morceau que j'écoute en boucle depuis 24 heures, autrement dit sans fin. Ça s'appelle Point and Kill de Little Sims. Écoutez-moi ce groove, Christophe.
I do what I want, I do what I like, I know what to face, I no fear nobody, nobody. I do what I want, I do what I like, I know what to face, I no fear nobody. Proper, no lie, give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor, riff raff, kiddy gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie, bougie, akile, oh I fancy when I see a type. Point and kill, if I born it, it's mine. You can't stop me, hey, you can't stop me, oh.
Point and kill, if I born it, it's mine, you can't stop. stop me, huh?
Kill dans Pop 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 sur France Inter, c'était Little Sims et j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ça. Christophe Blin, voici donc qu'après celui de Blueberry, vous enfourchez un nouveau cheval de bataille, celui de l'écologie. Et dès l'arrivée de Charline dans ce studio, nous nous concentrerons sur ce fameux monde sans fin que vous co-signez avec Jean-Marc Jancovici chez Dargo. Mais avant d'en parler, deux mots sur vous, mon cher Christophe. Vous vous destiniez au départ à l'illustration de carnets de voyage et aux livres pour la jeunesse avant de vous mettre résolument à la BD avec le succès que l'on sait. D'une certaine manière, avec le monde sans fin, vous revenez à vos premières amours.
C'est un mélange de... Ah, c'est vraiment de la bande dessinée. Ouais. Mais c'est une bande dessinée dans laquelle je n'ai...
Je pense à ce premier livre, là, je crois que c'était en 91, que vous citez, là, sur le Bangladesh, les carnets de voyage.
Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, j'avais fait mon premier, mon tout premier livre. J'étais encore étudiant. Mmh. J'avais 20 ans. Je suis parti dans une collection qui n'existe plus, mais qui a lancé pas mal d'illustratrices et d'illustrateurs, qui s'appelait les Carnets du Monde, et on envoyait un journaliste ou un écrivain ou une écrivaine, bon, et qui partait dans quelque part pour faire un reportage, et en dessinant sur place, et voilà. Et c'était des petits bouquins qui étaient destinés à la jeunesse. Et qui ont disparu maintenant, mais c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière.
Donc, même si on est d'accord, c'est une BD, le monde sans fin, vous revenez quand même à l'illustration du réel, du monde tel qu'il est. Est-ce que la fiction ne vous suffisait plus? Est-ce qu'elle était devenue trop restrictive?
En fait, ce sont des choses qui viennent à moi, enfin, ou qui s'imposent, et qui font que, par exemple, c'était le cas pour Quai d'Orsay, c'est des rencontres, généralement. Mmh. Alors là, c'est une rencontre de long terme qui a été faite par un intermédiaire sur ce livre-là, qui est mon frère, qui connaissait le travail de Jean-Marc Jancovici et qui m'en a parlé. Et le livre s'est imposé comme une évidence. C'était même une question de survie presque de le faire.
Ouais. Il y a un message à faire passer de toute urgence.
Oui. Et c'était pas une thérapie aussi pour moi parce que je commençais à développer une angoisse que je ne maîtrisais pas et il fallait que je rentre dans l'œil du cyclone pour la.
On va revenir au fond du sujet dans quelques instants. Mais alors tout ça c'est très bien. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Mais quand est-ce que vous allez finir le nouveau Blueberry?
Eh bien, je. Alors il est.
Parce qu'il y a eu amertume à Pache, mais on attend alors, tous. Impatiemment, la suite.
Le deuxième tome est écrit. Il est écrit depuis longtemps.
Par Johan Sfar.
Par Johan Sfar et par moi. Johan a développé un premier scénario absolument que j'adore et sur lequel j'interviens. J'ai très hâte de m'y remettre, mais c'est en cours.
Ce sera donc pour.
Je préfère ne
soyez
pas.
Non, mais dans pas. Comme ça.
Non, de pas. Oui. Non, dans quelques mois. Quelques mois. Non, ça sera pour l'année 2000, je ne sais même plus, on en est, 2022. 2022, oui. Il va arriver vraisemblablement plutôt vers le deuxième semestre de l'année 2022.
Alors attendez, parce qu'on parle de Blueberry, mais j'ai une question, ce qui vaut aussi pour Isaac le pirate, pour Gus, pour Socrate le demi-chien.
Après Blueberry.
Que deviennent vos personnages quand vous les laissez en plan comme ça pendant quelques années? Est-ce qu'ils patientent gentiment, comme on fait chez le dentiste?
Oui, alors c'est-à-dire qu'ils vieillissent avec moi, ils se transforment, je m'éloigne d'eux, et puis je les retrouve comme de vieux amis. J'ai un regard différent sur eux, et donc ils s'enrichissent, enfin j'espère. Oui, j'ai très hâte de les retrouver aussi. J'adore vieillir avec eux. Mm-hmm. Enfin, j'adore pas vieillir.
Mais avec eux, oui.
Avec eux, oui, ils vieillissent généralement moins vite que moi. Forcément, on n'a pas, parce qu'ils sont, quand même une espèce, même si c'est pas forcément, ils sont pas complètement moi. Ils ont leur part de mystère. Le fait aussi qu'ils ne vivent pas en permanence avec moi leur laisse une part de mystère. Ce sont des gens qui ont leur propre, qui ont une indépendance.
Voilà.
Ils ont leur vie propre. Ils font leurs petites affaires pendant que je ne suis pas avec eux. Et quand je les retrouve, ils se sont étoffés de cette expérience mystérieuse.
C'est la question que j'allais vous poser, Christophe Blin, mais sans doute parce que j'ai gardé une âme d'enfant, mais je me plais à croire que tous ces personnages continuent à vivre leur vie indépendamment de leur créateur, un peu comme dans Toy Story, vous voyez ce que je veux dire ?
Absolument.
Voilà. Et qu'à la nuit tombée, quand tout le monde dort, eux se réveillent. Vous croyez aussi à ce genre de choses ?
Bien sûr.
C'est pas loin de
j'aime la pensée magique, j'aime ce genre de choses, j'aime me raconter des petites histoires dans ma tête. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous de ce point de vue-là. Les personnages...
Ils se connaissent déjà, forcément.
Entre eux ?
Bah oui.
Ils vivent pas tous à la même époque, mais quelque
part. Non, mais ils se connaissent, forcément.
Oui. Ah, vous pensez en fait qu'ils font vraiment des foires entre eux quand je suis pas là ?
Des petites fiestas,
ouais. Ouais. Ah, c'est une... Ah bah maintenant que vous m'avez dit ça, je...
Ça pourrait peut-être vous inspirer.
Ça va travailler, ou alors ça va complètement me bloquer. ça va être comme la barbe du capitaine Haddock. Ouais. Vous savez, j'y avais jamais pensé. Maintenant que quand on lui parle de sa barbe, est-ce que vous la mettez au-dessus ou en dessous de la couverture, il devient fou parce qu'il n'y avait jamais pensé. Et donc maintenant qu'il y pense, il ne sait plus. Il peut m'arriver cette chose. Après cette émission de radio, je ne pourrai plus écrire.
Non, je ne voudrais pas être responsable d'une chose pareille. Christophe Blin, le célèbre dictionnaire Le Petit Robert a ouvert ses colonnes numériques à un nouveau pronom, Yel, désignant une personne sans lui attribuer de genre particulier. Pour vous, dont les héros sont majoritairement masculins, est-ce que ça pourrait ouvrir de nouvelles perspectives ? Vous n'avez pas l'air emballé, là.
Ma respiration était une réponse, hein, quelque part. Non, alors, je parle de ce que je ressens et ce que je connais. Je suis binaire. Bon, cela dit, ça ne veut pas dire que c'est un sujet qui m'intéresse pas, mais je suis binaire. Bon, voilà. Les femmes ont énormément d'importance dans mes livres.
Oui.
Généralement, elles sont très actives. Elles sont très. Il y a des meneuses. Il y a même des fois des héroïnes. J'ai tenté quand même des fois de mettre en avant des héroïnes qui guidaient l'histoire. Mais non, je les appelle il et elle. J'ai pas encore trouvé de yel, mais qui sait?
Qui sait ?
Qui sait ?
Qui peut le dire ? Alors, je parlais de Yel, et même s'il n'y a absolument aucun rapport avec Yel, la chanteuse, mais ça m'a donné envie d'écouter, de réécouter un de ses morceaux. Je vous propose donc d'écouter sa déclaration d'amour à notre pays.
Je te tourne autour, tourne autour, mais tu ne me vois pas. Je parle pourtant la même langue, je la défends à tour de bras. De Tokyo à Portland, en passant par Barcelona. Je fais des efforts, j'explique bien, je suis sûrement inadapté. Quand je m'exporte, j'explique rien, j'ai pas besoin de m'expliquer. C'est peut-être là la vérité, tu te poses beaucoup de questions. C'est moi qui suis vraiment
France Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux. Car oui, vient d'entrer dans ce studio celle qui a un bilan carbone impeccable et sans doute lié à l'usage intensif de sa trottinette Made in Picardie. Bonjour Charline.
Je ne vais pas mentir à nos auditeurs, c'est une trottinette électrique, donc cette assertion est fausse.
Je retire tout ce que je viens de dire. Charline, pouvez-vous nous raconter le début du monde sans fin et non l'inverse?
Alors plantons d'abord le décor. Un été de canicule en 2018 sur la route, la compagne de notre invité lit à celui un article dans lequel Jean Jouzel, spécialiste du climat, expliquait qu'en 2050 à Paris, il faudrait sûrement composer avec une température avoisinant les 50 degrés, soit la température à cœur souhaitée pour un rôti de bœuf. De ce constat moins culinaire qu'effrayant est née l'idée de faire un livre racontant le réchauffement climatique en collaboration avec Jean-Marc Jancovici, spécialiste des énergies et du climat, le tout sous forme de conversations dessinées. Des conversations dans lesquelles vous devenez Christophe Blain, un Iron Man, à grand nez, permettez-moi de le dire. Encore. En quoi ce héros Marvel est-il significatif de ce que vous aviez à raconter?
Alors c'est une trouvaille de Jean-Marc. Jean-Marc l'utilisait dans ses conférences pour expliquer ce que c'était que l'énergie. Et il a fait plusieurs tentatives et je trouve que c'est parce que Jean-Marc a cette qualité, ce génie d'avoir un langage très imagé. Il adore les analogies imagées. Et il explique des choses qui peuvent paraître très complexes et immédiatement il les transforme en images généralement assez drôles qu'on comprend tout de suite et qui est accessible à n'importe qui.
Ce qui est aussi votre travail.
Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est très bien entendu. Et l'image d'Iron Man était très intéressante parce qu'il s'agit d'un super-héros avec des super-pouvoirs, mais en fait, ça n'est pas l'humain en lui-même, le personnage humain qui a ses super-pouvoirs, c'est son armure. Ouais. C'est un exosquelette. Mmh. Ouais. Et en fait, c'est une manière de l'expliquer qu'on vit sans s'en rendre compte en permanence avec un exosquelette. Mmh. C'est ce que nous faisons actuellement en parlant dans une machine où des centaines de millions de gens. Des milliards peut-être.
Des milliards.
Oui. La Terre entière nous entend, alors que ils sont très loin. Ils nous écoutent d'une oreille très attentive, passionnée.
Passionnée, évidemment.
Et donc par l'intermédiaire de ces machines magiques, voilà, nous avons un exosquelette qui permet de d'être plus que nous-mêmes. Alors ça nous permet aussi de soulever des charges de plusieurs tonnes par l'intermédiaire de grues, etc., de parler, de se voir de très loin, d'aller dans l'espace, d'aller où on veut. On a en permanence, même quand on ne s'en rend pas compte, on vit
totalement
avec cette
tributaire de ces machines.
On est tributaire et on c'est devenu notre environnement naturel dont on ne peut plus se passer puisqu'on ne le perçoit presque plus. Et naturellement, tous ces mouvements sous-jacents, visibles ou invisibles, on utilise de l'énergie. Utiliser de l'énergie, utiliser des machines, c'est utiliser de l'énergie et vice-versa.
Et l'énergie n'est pas inépuisable.
Ça fait partie de la démonstration que fait que Jean-Marc, c'est-à-dire de nous montrer la valeur exacte de ce monde sous-jacent et de pouvoir remettre les choses, de pouvoir les comparer ce qui est comparable et de les relativiser. C'est-à-dire que on ne peut plus les percevoir. Elles font vraiment tellement partie de notre environnement naturel, nous y sommes tellement habitués, notre corps y est tellement habitué qu'on ne sait plus les mesurer. Alors évidemment, si on est dans un embouteillage parisien ou à Mexico et puis que ça sent très fort les gaz d'échappement, là on se rend compte de ce qui se passe. Mais si on est au fin fond de la campagne, on ne se rend pas compte de ce que peut être le réchauffement climatique. C'est le cas par exemple des Américains qui sont sur un territoire très grand et qui n'ont aucune conscience que d'utiliser leur énorme SUV dans un désert, fait partie du réchauffement climatique.
Et alors pour en revenir à l'anecdote de départ, en quoi est-ce que l'année 2018 a-t-elle été selon vous un tournant dans la prise de conscience collective?
Alors c'est très frappant, ce que je dis dans le livre, et ça m'a été... Jean-Marc étant mon maître, je ne suis qu'un padawan.
Jean-Marc Jancovici.
Je le considère moi je suis que le padawan, donc c'est lui qui il a confirmé mes propos, donc je me suis dit que mes propos avaient un petit peu de sens. En 2018, c'est la première fois que dans les médias de grande diffusion, les médias grand public, on mettait en relation immédiate la canicule qu'on était en train de vivre et le réchauffement climatique. Bien sûr, et ça paraît assez étonnant maintenant parce que c'est quelque chose de largement admis, il me semble, mais ça n'a que 3 ans. C'est très peu. 2018, c'était il y a 3 ans.
Et ça fait très longtemps qu'on en parle. Hein. Moi, je me souviens de René Dumont au milieu des années 70, qui bien déjà annonçait.
Bien sûr, mais là, il y a le sentiment que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous. Et j'ai eu ce sentiment.
Ça se rapproche.
Voilà, ça se rapproche. Ouais. C'est un fait. Je connaissais, j'entendais parler de ça depuis longtemps. Je connaissais l'analyse et les conférences de Jean-Marc Jancovici à travers. Je ne voulais pas les regarder directement. Je faisais une sorte de déni parce que ça m'effrayait un peu. Beaucoup, mais c'est mon frère qui m'en parlait, et puis j'ai développé une très grande anxiété quand même face à ça. Je me suis dit maintenant on y est, parce que ce que je raconte dans les toutes premières pages du livre, je me disais 50 degrés en 2050, soit, mais en 2040, il fera déjà chaud, en 2030 et 2020, et on y est maintenant. Le compte à rebours est vraiment sur son. Donc voilà. Et donc, devant cette anxiété, mon frère m'a dit fais un livre avec Jean-Marc. Et ça a pris quelques mois. Il a dit fais un livre avec Jean-Marc Jancovici. Et au moment où il a dit ça, parce que je l'avais déjà un petit peu envisagé avant, il y a eu un blanc de 30 secondes, pas plus. Et immédiatement, je dis, mais c'est déjà évident, je vais le faire.
Et vous avez eu tout à fait raison, parce que ce livre est absolument génial. Il s'appelle Le Monde sans fin. Mais c'est quoi un monde sans fin, alors qu'on n'a jamais autant parlé de fin du monde?
Justement, c'est-à-dire que c'est à la fois une constatation, une ironie, une injonction. On ne sait pas. Le monde sans fin, ça peut désigner le monde tel qu'on le considère, tel qu'on le voit, c'est-à-dire un monde en croissance permanente. C'est tel qu'il est considéré d'une manière absurde. Bien sûr que ça a une fin. C'est une manière aussi de dire, on parle de fin du monde. En réalité, je pense que nous sommes une espèce profondément résiliente et que on finira pas si tôt que ça. Dans quelles conditions, je ne le sais pas, mais une fin du monde brutale, non. Et donc c'est une manière aussi de, il y a une forme aussi d'espoir. C'est une question, c'est une affirmation ironique. Enfin, on ne sait pas exactement. D'ailleurs, Jean-Marc ne répond pas directement. Sur la quatrième de couvre, je lui pose la question. Jean-Marc, lui le grand spécialiste, Jean-Marc Jancovici, je lui dis mais est-ce que c'est la fin du monde? Et il répond idéalement pas tout de suite.
Ce qui nous arrange tous,
en même temps, qui est une réponse assez étrange. Je n'en connais pas exactement
et
le sens.
Et puis on pourrait aussi dire bon l'anthropocène, ça suffit, ça va, on a compris, allez passons à autre chose.
Finalement.
Mais enfin, on en fait partie.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors précisons qu'un monde sans fin n'est pas l'adaptation d'un des nombreux ouvrages de Jean-Marc Jancovici, mais un livre original pour lequel vous vous êtes maintes et maintes fois entretenus tous les deux. Comment se sont déroulées ces sessions de travail qu'on imagine relativement studieuses?
On se voyait une fois par semaine. Ouais. Non, je suis parti. Le départ, le cœur du livre, les qui sont les premiers chapitres, je me suis appuyé sur un cours qu'il fait aux mines, pour les élèves des mines, qui est extraordinaire parce qu'il est accessible à n'importe qui. On n'a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour le comprendre. Et donc j'ai adapté ce cours en étant un candide, en me mettant dans la position du candide qui l'écoutait, qui l'interrogeait, et qui servait aussi à illustrer ce qu'il montrait. C'est-à-dire la force d'un homme, par exemple, au début du livre, il explique que quand on utilise un mixeur à soupe, on utilise la même force que si c'était quatre cyclistes, qui montraient 2000 mètres de dénivelé pendant tant de temps, l'effort moyen qu'il développerait, il nécessiterait au moment où on démarre ils étaient en train de pédaler 4 et c'est un ascenseur, ça serait 50 cyclistes, etc., etc. Un aspirateur, ça serait 15 cyclistes. Et c'est pour montrer, en fait, qu'il y a un énorme écart entre les forces des machines et nous. C'est ce qu'il appelle les esclaves, les machines sont des esclaves énergétiques. C'est-à-dire, si on les traduit en force humaine, on se retrouverait avec, on serait tributaire en permanence, un humain moyen. Alors, c'est réparti très inégalement, inégalement sur la planète, mais un humain moyen a besoin de 200 esclaves énergétiques, de la force moyenne d'un humain, en permanence avec lui, est tributaire de ces 200 esclaves. Alors, il y a des endroits, c'est 50, il y a des endroits, c'est 500, 600 ou 700, en France, c'est à peu près 400. C'est comme si on faisait travailler. On faisait travailler 400 esclaves pour nous, pour pouvoir utiliser tout ce qu'on utilise.
Tout ça vient d'une clarté absolument lumineuse. À la fois le discours de Jancovici et la manière dont vous l'illustrez, dont tout ça devient absolument digeste. C'est fait avec beaucoup beaucoup de sérieux, mais beaucoup d'humour aussi. La masse d'informations est littéralement impressionnante. C'est un travail titanesque pour le dessinateur que vous êtes, qu'il faut prendre le temps de lire et de déguster. Vous avez dégusté, vous, d'ailleurs, en le dessinant ?
Oui, parce que c'est un travail énorme. C'est-à-dire que c'était vraiment, je me le suis fixé, c'est devenu une mission. Mm-hmm. Je m'étais préparé pour un marathon, mm-hmm. et en réalité, j'ai fait un ultra trail.
Oh, c'est difficile.
C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait 42 km, je me suis aperçu qu'il y en avait 84 et peut-être 126, voire plus. Et Jean-Marc Jancovici a très très bien joué le jeu. On se retrouvait chaque semaine et je lui montrais le storyboard que j'avais tiré, soit de ses cours, soit de nos conversations, parce qu'au bout d'un moment, on a quitté les cours assez... une fois que les bases étaient posées de l'explication de notre fonctionnement énergétique pour rentrer ensuite dans la description de chaque type d'énergie
et
qu'on utilise
dans
et comment.
C'est une vraie conversation d'ailleurs, comme c'est
absolument,
bien,
c'est une conversation et donc on se retrouvait chaque semaine, enfin quelque chose comme ça.
Mais parce que vous êtes le Candide, vous êtes.
Je joue le rôle du Candide et au bout d'un moment, une fois que les rôles sont bien posés, on devient même complètement actif. On fait partie de l'univers et on endosse différents costumes et différents d'autres personnages interviennent.
Christophe Blin, la mission.
Oui, mais c'était une vraie mission.
Alors, deux fils conducteurs dans ce livre, l'énergie et le climat. Parmi toutes les explications et constats fournis par votre expert, lequel vous avez le plus étonné ou mis en colère? Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Toutes les pages, il y a quand même
C'est très vaste. En fait, c'est très difficile à décrire. Ce qui me mettait le plus en colère, c'est le gâchis. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a quand même des ressources, on a des idées, et souvent méconnaissance et par court-termisme, elles sont gâchées. Je pourrais pas vous en citer une qui sorte du livre parce qu'en fait mon esprit est très perturbé. Jean-Marc m'en donne en permanence, il me donne en permanence des exemples concrets qui se passent quotidiennement sur des décisions régionales, politiques qui se passent, où il y a un gâchis phénoménal. Ouais.
Ou à l'échelle de consommateur.
À l'échelle de consommateur.
Certains fringues qu'on achète, le savoir, l'énergie que ça met quand même en...
Oui, mais ça c'est... Si vous voulez, je pense que c'est ce travail individuel qui viendra petit à petit et qui vient.
Il est nécessaire, mais
il est nécessaire, il n'est pas suffisant, et c'est beaucoup plus sur des décisions politiques de méconnaissance qui me. Je sais pas, par exemple, cette histoire n'est pas dans le livre, mais je vais la raconter de manière imprécise. J'espère que Jean-Marc Jancovici me pardonnera. Il y a eu une école d'ingénieurs qui a déménagé en France il y a pas longtemps et. Il y avait la possibilité de la remplacer par une autre institution et des investisseurs se sont mis sur le coup. Les ingénieurs se sont regroupés ensemble pour racheter le terrain et créer un laboratoire de recherche agronomique. C'était une école d'agro, je crois. Et ils avaient réuni une somme très importante et les investisseurs qui, eux, voulaient faire un EHPAD avaient réuni une somme aussi très importante, mais avec juste, je crois que c'est de l'ordre de les ingénieurs, pour le dire comme ça, je le présente de manière... 11 millions. Et les investisseurs, 12. Et c'est une décision politique, on va dire, il fallait faire un laboratoire de recherche agronomique. Dans le but, évidemment, de recherche agronomique, faire face au réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on pouvait, comment l'agriculture peut s'adapter. Et pour cette différence d'un million, on a choisi de mettre l'EHPAD des investisseurs. Ouais. Ce qui est quand même rageant. Alors, Jean-Marc me raconte, chaque fois que je le rencontrais, il me racontait 10 histoires comme ça, les bras vous en tombent, parce qu'en fait, on s'aperçoit que des décisions politiques quotidiennes peuvent avoir des effets. Il y a des gens qui veulent se battre, et il y a les moyens de le faire. C'est pas évident, mais voilà, il y a un gâchis. Jean-Marc, lui, fait face à ça quotidiennement.
Ouais. Et il y a littéralement de quoi enrager. Lisez ce livre de toute urgence, Le Monde sans fin, chez Dargaud, de Jancovici et Blin. C'est un livre indispensable. Je n'insisterai jamais assez dessus. Puis surtout, c'est un livre passionnant à lire. Vraiment.
J'espère.
C'est un page-turner. Bon, ne bougez pas, s'il vous plaît, Christophe. C'est le moment des pop news dans Pop.
Et laissez-moi prendre un peu d'élan. Meryl Streep, Kate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Rob Morgan, Ariana Grande, Mark Rylance réunis dans un film d'Adam McKay, l'homme à qui on doit Step Brothers ou encore Vice. Déjà sur le papier, c'est oui. Et si j'ajoute que les deux rôles principaux sont tenus par Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio, c'est super banco. Ces deux derniers sont deux astronomes qui font une découverte qu'ils aimeraient partager avec la présidente Meryl Streep et ses conseillers.
I hear there's something you don't like the looks of.
We discovered a very large comet.
Oh, good for you.
It's headed directly towards Earth.
This comet is what we call a planet killer.
At this exact moment, I say we sit tight and assess.
Sit tight and assess?
Sit tight.
And then assess. The sit tight part comes first, then you gotta digest it. That's the assessment period.
Une comète fonce droit sur la Terre, mais comme Jonah Hill vient de le suggérer, la présidence préfère attendre et évaluer. Et les deux héros, deux tentés par tous les moyens d'alerter, satire ou comédie, la réponse dans Don't Look Up d'Eni Cosmic, ce sera le 24 décembre sur Netflix.
Bientôt un cinquième album pour les Brooklyniens de Big Thief, emmené par la chanteuse et guitariste très spirituelle Adrienne Lenker. Le groupe a déjà dévoilé quelques singles dans ce Time Escaping. Time Escaping de Big Thief, à retrouver sur l'album dont le nom tient de l'exercice d'orthophonie, Dragon New Warm Mountain, I Believe in You, qui sortira le 11 février.
Un nouveau trailer pour Spider-Man No Way Home et Peter Parker est en souffrance au point d'être allé voir Doctor Strange pour lui demander de jeter un sort afin que le monde entier oublie sa double identité. Mais voilà, la magie du sorcier a des effets secondaires.
When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors.
Des visiteurs venus d'univers parallèles et parmi eux, lui.
Hello, Peter. You're not Peter Parker.
I'm sorry, what was your name again?
Dr. Otto Octavius.
Wait, no, seriously, what's your actual name?
Le Docteur Octopus qui ne reconnaît pas Spidey, il n'est pas le seul méchant d'anthologie à faire son retour et Spider-Man No Way Home avec Tom Holland, Zendaya et Benedict Cumberbatch. Ce sera le 15 décembre dans les salles.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Hello, Charlene.
Docteur Octopus.
Mais oui, bien sûr, le docteur pieuvre, c'est moi. Merci Charlene. Christophe Blain, il est 16h37 et 18 secondes. Ben, c'est l'heure de passer à votre pop-list. Un livre, un film, une musique, une série, voilà ce que vous allez nous donner envie de lire, de regarder ou d'écouter après l'émission. Alors commençons par le livre. Votre choix s'est porté sur Le Tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, un livre de 1781. Charline, voici une écriture qui m'enchante. Moi aussi, expliquez-nous en termes fleuris de quoi il est donc sujet ici.
C'est ambitieux, fleuri. Je peux vous dire que c'est un tableau littéraire et sociologique du Paris populaire de la fin du XVIIIe, publié par un philosophe des Lumières, et ce, entre 1780 et 1788.
C'est pas mal. Christophe Blain, expliquez-nous pourquoi ces tableaux ne sont pas des croûtes.
Alors, d'abord pour la façon dont c'est écrit, la langue est sublime.
Sublime.
Absolument sublime. Elle est teintée d'une ironie permanente, comme souvent on le trouve chez beaucoup d'auteurs du XVIIIe siècle. C'est des auteurs que je relis à chaque fois que je dois écrire un Isaac. Alors, il se trouve que j'ai voulu écrire des Isaac et j'ai été interrompu pour faire un Blueberry. Ensuite, j'ai été interrompu pour faire Le Monde sans fin.
Oui, bon, allez, ça va.
Voilà. Non, mais c'est comme ça, les choses se présentent. Bon. Et donc, je n'arrête pas de les relire, de m'interrompre et de les relire et de les relire et de les relire. Et celui-là est un, c'est pas mon livre du moment, c'est mon livre de chevet. C'est un livre sur lequel je reviens en permanence et que je peux prendre à peu près à n'importe quel endroit parce qu'il est savoureux, il est en permanence savoureux à toute page et j'ai rarement lu un truc qui était aussi avec d'une truculence et d'une beauté, la beauté linguistique et me renverse à chaque fois.
Je répète le titre, Le Tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier de 1784. Oh, ce tumbleweed qui vient de passer sur la table m'indique que c'est le moment de parler du film de Jacques Audiard, Les Frères Sisters, le film que vous avez choisi, Christophe. Charline, on peut donc être frère en étant sisters.
En effet, Antoine. Charlie et Eli Sisters ont du sang sur les mains, tuer c'est leur métier, une profession dans laquelle excelle Charlie, le cadet, alors que son aîné aspire lui à une vie normale faite de tranquillité. crédité, mais ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme de l'Oregon à la Californie. Une traque implacable commence.
Oh, fuck that up real good. How many do you think we killed?
I don't know. Six, seven.
We didn't even get his horses back.
S-I-S-T-E-R-S. Sisters. Like sisters.
We are the Sisters Brothers. You and me.
You not scared to reproduce yourself?
Frères Sisters de Jacques Audiard, le choix de Christophe Blain. Mais ça y est, j'ai compris. Western, blueberry, écologie.
Écologie, parce qu'en fait, Charline, vous disiez qu'il...
Ce n'est que le début.
Voilà, ils cherchent un homme, mais quel homme? Ils doivent tuer un homme. Lequel? Ils doivent tuer un chimiste qui a inventé un procédé qui permet dans les rivières, lorsqu'il met le produit qu'il a inventé, on le met dans de l'eau, il fait tout de suite briller l'or. Donc ça permet, on va tout de suite. Mais c'est un produit naturellement incroyablement nocif.
Oui, il défonce tout.
Et le chimiste en question est dans le film est plutôt un personnage positif. C'est vraiment un brave type qui cherche le bien de l'humanité. Et d'ailleurs, il y a un détective qui a aussi à sa course et qui doit indiquer sa position pour que les tueurs l'éliminent. Lui vole sa formule, l'élimine. Et finalement, il décide, le détective, qui est joué par Jack Gyllenhaal, imprononçable, Jack
Gyllenhaal,
couché dehors, et il décide d'utiliser l'or qu'ils vont trouver pour créer un phalanstère. Voilà. Et les tueurs vont ensuite s'accorder avec eux, plutôt que de le tuer. Excusez-moi. Je suis désolé. Vous n'avez rien entendu.
Non,
mais cela dit, il y a une fable derrière ça qui est très intéressante et qui est en lien avec ma préoccupation du moment et ce livre, Le Monde sans fin, où pourquoi l'ingénierie, l'intelligence qu'on développe, dans quel but, pourquoi on ne il y a une destruction, on voit, il y a une métaphore, dans ce film, il y a plein d'idées un film extrêmement riche.
Et des comédiens exceptionnels.
Des comédiens exceptionnels. Il parle de la rédemption, d'un chemin personnel, mais aussi, il y a un message écologique très intelligent et très subtil entre la recherche de ce chimiste qui crée un produit qui a double emploi. On parle beaucoup de ça avec dans le livre avec Jean-Marc. Est-ce que le progrès est un bien ou est un mal? C'est difficile est-ce qu'on doit le culpabiliser? C'est une question permanente.
Toutes les raisons de revoir les Frères Sisters de Jacques Audiard, le choix de Christophe Blain. Enfin, pour la musique, vous avez choisi une chanson, et cette chanson, c'est L'Avalanche d'Arthur H, avec un clip signé Christophe Blain.
Soudain, tu pressens l'avalanche.
Bon, alors évidemment, comme nous sommes à la radio, c'est le morceau que nous venons de diffuser, non le clip. Comment cette aventure est-elle née, Christophe?
Alors cette aventure, elle est née... Alors c'est un clip que j'ai réalisé avec l'excellent Jean-Mathieu Tanguy, on a beaucoup travaillé là-dessus, et qui était une respiration pendant Le Monde sans fin. Mais il y a des choses qui s'y retrouvent. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 2 ans sans interruption sur Le Monde sans fin. J'avais besoin de respirer, j'avais pas pris de vacances. Et j'ai accepté de faire ce clip qui était absolument une aventure absolument passionnante. Et il y a un personnage d'une géante qui apparaît dans ce clip, qui n'est pas très loin du personnage de la géante du Monde sans fin, qui est en fait Mère Nature.
Qui représente la nature, c'est ça. Vous aviez besoin de respirer, vous choisissez de réaliser un clip qui s'appelle L'Avalanche. Tout ça est évidemment très clair. Bon, Christophe Blain, restons dans la musique avant d'accueillir les sœurs d'IBI. Je vous propose d'écouter le morceau qui vient d'être dévoilé par Aurel San aujourd'hui, c'est L'Odeur de l'essence.
J'ai leur faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrer sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé.
L'adolescence. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réact, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal, quelque part le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz fortes avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompu, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votes, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avant jamais, nombreuses radicalistes. En manque d'un père, ils perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques d'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent au flip de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs? Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume parce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
L'odeur de l'essence.
Démonstration.
Ben oui, dans Pop 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 sur France Inter, c'est un morceau signé Aurel San, extrait de son dernier album Civilisation qui arrive vendredi. Et viennent de nous rejoindre les sœurs IBI qui ont collaboré avec le rappeur de Caen. Bonjour, bonjour. Lisa Kainde. Bonjour Naomi.
Bonjour.
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 IBI, ça signifie jumelles en langue yoruba. Et comme nous ne pouvons pas les voir car nous sommes à la radio, c'est parce que vous êtes jumelles. Enfin, dites-vous. Des sommes de fausses jumelles, deux opposés qu'on a rassemblés.
Mm-hmm. C'est vrai, un yin et un yang.
Un yin et un yang.
Un yin et un yang mis ensemble à la naissance.
Laquelle est le yin, laquelle est le yang?
Je te dis. Hein? Moi, je pense que Naomi est le yin et je suis le yang.
D'accord, ça me va très bien. Ibéi, vous chantez, alors je parle à vous deux, hein, vous chantez en espagnol, en anglais, en yoruba et quelquefois en français. Votre musique a fait le tour du monde et vous êtes pour moi la définition du melting pop. Mais le mieux pour parler de vous, c'est encore Prince qui disait, je le cite, Ibéi, c'est une tornade à deux voix. Mm-hmm. Imbattable, hein, on ne peut pas faire mieux.
On peut pas faire mieux.
Non.
C'est classe.
C'est classe.
Non, puis ça nous a fait danser de joie quand même. Mm-hmm. Quand il a tweeté sur eBay, on n'y croyait pas.
Mais vous comprenez ce qu'il entendait par le mot tornade ?
Oui.
Oui.
Ça a l'air d'être limpide.
Oui, 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 oui. Mais je pense qu'à deux, on peut. Oui, oui, on est une force assez intense.
Ouais. Ah bah, le yin et le yang ensemble, oui, c'est complet. Bon, la tornade à deux voix, je vous présente Christophe Blin. Je vous présente la tornade à deux voix, donc. Lisa Kainde, Naomi. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en 2017. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour vous? Deux, trois trucs, j'ai l'impression, non?
Oh là là. Beaucoup de choses. On a recommencé à écrire des chansons. Mmh. On s'est remise dans le studio avec Richard Russell, avec notre producteur bien-aimé. On était les trois et on en avait envie, on en avait besoin. Et on a grandi. On a tellement grandi. On a tellement changé.
Et puis avant ça, on était aussi partis en tournée. Mmh. Et puis il y a eu ce qu'on sait pendant un an et demi. Et puis pendant cette année et demie, j'ai fait beaucoup d'allers-retours à Londres, puisque les habitent à Londres et notre... producteur, coproducteur et à Londres.
Vous avez fait beaucoup d'allers-retours pendant le confinement?
Oui.
Ah oui.
Pour aller faire de la musique à Londres.
Mais justement, comment est-ce qu'on contient une tornade dans des périodes comme celles qu'on vient de vivre?
C'est impossible.
Bah si, justement, je pense que ça nous a fait du bien, parce que nous, on a commencé, on avait 18 ans, ça fait bientôt 10 ans. Mmh. Et je pense qu'il y a eu tellement de choses extraordinaires qui se sont passées. On était tellement dans l'action tout le temps, le nouveau, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a eu le temps de se poser et de réfléchir à tout ce qu'on avait fait et de juste de vivre.
Dans quelques instants, vous allez dévoiler ici même votre nouveau single pour sa première écoute. C'est un événement et nous vous en remercions. Ce morceau s'appelle Made of Gold et le clip sortira à 20h et sera entre autres à retrouver sur les comptes de l'émission. Dans quelle humeur êtes-vous à quelques heures de cette sortie mondiale?
Excitée, je pense. Ouais. Moi, j'ai des papillons dans le ventre.
Des papillons dans le ventre?
J'ai des papillons dans le ventre.
Ok, ça c'est Lisa et vous, Naomi?
Moi, je suis excitée. Mm-hmm. Je suis excitée. J'ai... En fait, ça fait un moment déjà qu'on l'a fait. Et du coup, j'ai juste hâte que ça ne nous appartienne plus.
Le clip du morceau a été réalisé par Daniel Sandvold, qui vient de réaliser entre autres la dernière campagne de Beyoncé. J'ai l'impression que depuis votre apparition dans Lemonade, hein, le film de Beyoncé qui accompagnait la sortie de l'album du même nom, Queen B n'est jamais... Ça y est, elle se met tout de suite à danser les temps. Queen B n'est jamais très très loin. Est-ce que c'est rassurant?
Rassurant, je sais pas.
Ça fait plaisir en tout cas. La dernière fois qu'on a joué à Coachella, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas revue depuis Lemonade. Et elle est venue écouter notre concert. Elle était en side of the stage, elle était sur le côté de la scène. Mm-hmm. Et on savait pas qu'elle allait venir. Et du coup, on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est dingue qu'elle soit venue et qu'elle ait pris le temps. Je pense que ça fait plaisir, mais ça fait toujours plaisir quand quelqu'un aime. Ta musique, la musique pour nous, c'est qui on est, c'est nos tripes, c'est notre histoire, c'est notre relation, c'est tout, quoi. Donc, quand quelqu'un aime, peu importe qui ce soit, on a envie de danser.
Mais là, pardon, comment on garde sa concentration sur scène quand on est en train de performer et que justement, sur le côté, on glisse un petit coup d'œil latéral et qu'on se rend compte que la personne qui dodeline de l'autre côté, c'est Beyoncé?
On a gardé notre calme. Ouais. On a gardé notre calme. Et je pense qu'en fait, nous, on est tous des êtres humains. Mmh. Et on fait tous des choses incroyables. Et c'est juste ça qui est beau, de collaborer avec des gens qu'on peut admirer. Mais on reste tous des êtres humains. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier.
Lisa, Naomi, ce morceau, et je l'imagine, hein, le premier morceau d'un album en préparation, parce que pour l'instant, il n'y a absolument aucune info nulle part. Que pouvez-vous nous révéler ici?
Oui, nous sommes en train de faire un album qui sortira certainement bientôt. et voilà. Mais oui, effectivement.
Précis,
il y a beaucoup de chansons, voilà, c'est ce qu'on va vous dire. Il y a beaucoup de chansons. C'est la première, mais ce n'est pas la dernière.
C'est la première, mais ce n'est pas la dernière. Tout ça est très crypté quand même. IBI, comme promis, il est précisément 16h. 53 minutes, 51 secondes, et c'est l'heure de dévoiler ici en exclusivité, en direct, votre tout dernier morceau, Made of Gold. Est-ce que vous êtes prête?
Oui.
Bon, alors je vous laisse faire symboliquement un signe à Ghislain Fontanus, notre réalisateur,
c'est génial, ça, merci.
Pour lancer le morceau.
On le fait
ensemble ? Il est là, en régie.
1, 2, 3.
Me show them heroes, feel it. We are the younger, the hunger. Me show the heroes, feel it. All right, one more time. Me show them heroes, feel it. We are the younger and the hunger. Me show them heroes, feel it. We are the younger and the hunger.
Holy water, crying at the altar. In and your desire, freedom from the Maya, Maya.
Made of Gold, c'est une exclue pop pop pop, c'est le nouveau single dévoilé ici sur France Inter par IBI.
On veut la suite, on veut la suite.
Featuring le rappeur Pié Saulieu. Merci infiniment. Merci infiniment les filles, merci de ce cadeau.
Merci beaucoup.
Popopien. Je rappelle que le clip sera lui dévoilé à 20h. Et merci Christophe Blin. Merci. Le monde sans fin est à aller acheter de toute urgence chez votre libraire. C'est une BD éditée chez Dargo qui est plus que recommandée. Et évidemment par Pop Pop Pop, que vous avez co-signé avec Jean-Marc Jancovici. Indispensable Jancovici. Merci Charline.
Merci.
À demain. Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Laurent Baudouin qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans Pop Pop Pop, Aldebert et Antoine Dole, deux icônes pour les enfants, se réunissent et viennent nous présenter un album en commun. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.